France Bleu La Rochelle, mémoire de bateau.
S'il y a bien un voilier qui fait rêver, c'est Josua. Un monument, au sens propre comme au sens figuré. Le ketch rouge, héros de la longue route, est la star des pontons rochelais. Plus qu'un bateau, Josua est le principal témoin du vent de liberté qu'a représenté Bernard Moitessier pour toute une génération.
Je suis citoyen du plus beau pays au monde. Un pays aux lois dures mais simples, qui ne triche jamais, immense et sans frontières, où la vie s'écoule au présent. Dans ce pays sans limites, dans ce pays de vent, de lumière et de paix, il n'y a de grand chef que la mer.
Parmi les gens qu'on rencontre, j'ai souvent vu des gens au bord des larmes, voire pleurer, d'émotion. Parce que Josua, c'est, pour beaucoup de gens, c'est une émotion. L'émotion des livres qu'ils ont lus quand ils étaient plus jeunes, le rêve que ça a pu enclencher, et tout ce qui a pu être fait pour partir, le voyage. Parce que c'est pas seulement la mer, le bateau, c'est aussi le voyage, c'est la liberté, l'aventure. C'est tout un souffle qui s'est propagé dans les années 70. Et dans les années 70, ben, ça fait maintenant des gens qui ont un petit peu de bouteille, mais qui se souviennent et qui transmettent cette émotion à leurs enfants, leurs petits-enfants. Oui, c'est vrai.
Bienvenue à bord de Josua. Les témoins d'hier et d'aujourd'hui vont nous raconter sa formidable histoire.
Mémoire de bateau, embarquement immédiat.
Mais qui est vraiment Josua ? Pour nous éclairer, rendez-vous avec les amis du musée maritime à La Rochelle et un passionné de ce voilier, Thierry D'Alberto. Il vient de sortir un ouvrage consacré à l'histoire de Josua.
C'est un bateau tourbillonniste. C'est pas un modèle courant. Ensuite, c'est un bateau qui est fait pour être mené par un seul homme. C'est un bateau où il y a de la place, où il y a de la hauteur sous barreau, alors que Bernard n'était pas très grand. Mais c'est un ketch, donc un grand mât devant, un plus petit mât derrière, et même ici, pas mal derrière, puisque vous regardez, la baume dépasse énormément. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai vu Bernard en train de prendre un riz dans l'Artimon avec un bon coup de vent en Méditerranée, c'était un singe. On ne savait pas comment il tenait, on ne savait pas comment, etc. Il faisait ça de façon absolument naturelle. Donc c'est vraiment un bateau particulier. Ce n'est pas le bateau de tout le monde. Ouais. Ça ne correspondrait pas à tout le monde. C'est un bateau qui a des formidables qualités de flottaison, de ligne, de route. Il a un défaut, il ne remonte pas bien au vent. C'est un bateau suffisamment grand pour tenir à peu près n'importe quel temps. Il l'a prouvé. Un bateau un peu plus petit commencera à bouchonner, commencera à pas avoir de... Ensuite, le système ketch est un système où vous réglez vos voiles, vous calez votre barre, et le bateau continue. Il n'a pas beaucoup de variations, même si le vent tourne un peu, etc. Il n'y aura pas grand-chose. Donc vous pouvez faire autre chose, vous pouvez travailler sur le pont, etc., pendant qu'il continue. Donc il est confortable. Il voulait un ketch tahitien, donc c'est-à-dire un bateau norvégien. Bizarrement, pour un ketch tahitien, c'est complètement stupide. Un bateau norvégien, il a la pointe devant et la pointe derrière. On dit la proue et la poupe norvégienne. Voilà. Ce qui lui permet, quand il ramasse de grosses lames par l'arrière, de ne pas être poussé, partir au surf trop, etc., puisque la lame est coupée en deux de chaque côté. Ça, c'est quand vous faites les mers du Sud, c'est un fondamental. Mmh. Et les mers du Nord aussi, puisque j'ai voyagé pendant 10 ans sur des bateaux norvégiens en Suède, au Danemark et en Norvège, et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Thierry D'Alberto a bien bourlingué. Il a même partagé plusieurs semaines de navigation à bord de Josua, aux côtés de Moitessier. La rencontre, c'était en 1962, dans un petit resto du port de Girolata, en Corse.
Bernard dévorait sa langouste en disant à Jean « Quel dommage qu'on ne puisse pas faire un rôti sur un bateau. » Et moi, je passais avec mes assiettes. Je dis « Bien sûr que si, on peut. » Puis j'ai repâti. Quand je suis revenu, il m'a abordé. Il m'a dit « Et comment ?» J'ai dit « Il suffit d'avoir une cocotte minute. » Je reviens avec mes assiettes et il me dit « Tu saurais faire ça ?» Il dit « Aucun problème. » Et Jean me dit « Prépare ton sac. » Et 20 minutes après, j'étais à bord et je suis resté 3 semaines. En 3 semaines, j'ai appris plus qu'au Glénan, que dans les bouquins, qu'avec n'importe qui. Et sans qu'il parle, Bernard, il regardait le truc que vous vouliez, qu'il fallait que vous voyiez, et il savait admirablement transmettre de ce côté-là.
Vous aviez conscience à cette époque-là que c'était un bateau qui allait devenir un bateau de légende et que vous étiez avec un marin qui lui aussi allait devenir un marin de légende ?
Non, il avait déjà sorti depuis un an Le Vagabond des mers du Sud, que j'avais pas lu.
C'est vrai que c'est comme ça qu'il a payé Josua d'ailleurs ?
Non, Josua c'est 7000 euros. Ah non, c'est en plaçant du polish. Il était représentant en polish et il allait de garage en garage, toute la France, pour placer un polish extraordinaire. Il faut dire qu'à l'époque, une voiture, ça brillait pas aussi facilement qu'aujourd'hui et tout. Et donc, ça va être le polish. Et Josua était pas fini. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses qui n'étaient pas. Mais c'était déjà un bateau qui avait des qualités. Vous savez, quand vous avez vu le sillage de Josua, bien installé, avec l'eau qui rentre déjà sur la moitié du pont, vous savez que c'est un bon bateau. C'est un bateau qui a une âme, et ça, vous le sentez ou vous le sentez pas, si vous l'avez senti une fois, vous le sentirez toute votre vie. C'est un bateau, quand on est dans un coup de vent, avec ses drisses, ses haubans, etc., c'est un orchestre. Et c'est un orchestre avec une sacrée caisse de résonance. On ne penserait pas que l'acier joue les violoncelles, par exemple. C'est ça aussi. Il y a de l'orgue, il y a des violoncelles, je vous dis, il a une âme et il a une vie. Même s'il n'avait pas le quart des qualités qu'il a, il serait encore Josua.
Josua, les origines. Dans un instant, nous verrons que ce voilier en acier de 12 mètres aurait dû être en bois et mesurer 10 mètres.
France Bleu La Rochelle, le patrimoine maritime de chez nous, mémoire de bateau.
Raconte les secrets de Josua, le bateau de Moitessier. Nous sommes à bord avec Thierry D'Alberto. Cet écrivain qui a navigué aux côtés de Bernard Moitessier vient de sortir Josua, histoire d'un voilier mythique.
France Bleu La Rochelle, l'aventure autour du monde.
Et voici comment tout a commencé.
Un architecte génial qui s'appelait Jean Knocker, qui a fait des bateaux superbes, les Casarcas de Knocker naviguent encore et c'est des bateaux exceptionnels. Il en a dessiné, il en a aussi construit et sa spécialité c'était le bois moulé. Il n'a pas réussi parce qu'à l'époque où il a attaqué le bois moulé, le plastique a fait trop fort. Mais un jour il a rencontré Bernard début 61 et il lui a dit « mais moi votre bateau je vous le dessine gratuitement ». Bernard et lui ont commencé à s'échanger des lettres dans tous les sens. Bernard ne parlait pas beaucoup, mais il écrivait beaucoup. Bernard l'a abreuvé deux fois par semaine de spécifications, d'envie de ceci, d'envie de cela, et si on faisait comme ça, etc. Et Jean Knocker, petit à petit, lui a dessiné un bateau exceptionnel, de 10 mètres 50 de long, en bois moulé. Et vers le mois de juin 61, Bernard rencontre un dénommé Jean Fricot, fabricant de pelles mécaniques, qui s'était déjà construit pour lui un 50 en acier. Ils deviennent copains. Et Fricot lui fait, moi, ton bateau, je te le construis, mais tu paieras juste la ferraille, 7000 francs. Le reste, je te donne mes meilleurs ouvriers, etc. Mais ton bateau est trop petit. Pour faire le tour du monde, il faut qu'il fasse au moins 12 mètres. Ce qui fait qu'un beau jour, Jean Knocker a reçu une lettre de Bernard, petit monument d'incongruité, en lui disant « Cher ami, n'essayez pas de me changer mes idées, mais je construis le bateau en septembre, il sera en acier, il mesurera 12 mètres, et en fait, on a pris tous vos plans. » Il avait fini les plans étaient tirés, etc. Il y avait des mois et des mois de boulot à l'œil, et les plans augmentaient de 15%. Donc on s'est retrouvé avec un bateau beaucoup plus grand, mais beaucoup plus lourd, alors que Bernard avait déjà acheté le bois pour le construire en bois moulé, les agrafeuses et tout. Tout était prêt à Marseille, et finalement, ce bateau, la ligne de flottaison était 18 cm en dessous de ce qu'elle aurait dû être. Dès qu'on a un peu de gîte, l'eau arrive au mât, etc. Et Jean Knocker, qui était un gentilhomme formidable, n'en a pas pris ombrage, mais il n'a pas vu le bateau avant 68. Il a vu Joshua pour la première fois à Plymouth au départ du Golden Globe pour insister auprès de Bernard pour qu'il l'allège. Il lui a fait virer entre 1200 et 1400 kilos de matériel de tout ça. Le bateau est remonté et c'est probablement ça qui a fait qu'après, Joshua a vraiment sorti toutes ses qualités. Mais au départ, c'est une vraie catastrophe.
Un bateau largement allégé pour prendre le départ de la course qui le fera entrer dans l'histoire quelques années plus tard.
Un beau jour, dans Bateau, il écrit un article dans lequel il dit « Je veux faire le truc de Slocum, c'est-à-dire le tour du monde, mais sans escale, en solitaire, ça Slocum l'avait fait, mais sans assistance et sans escale, ça c'était jamais fait. » Et là, les journaux anglais sautent dessus. Il y a Bill King, qui était un ancien patron de sous-marin anglais, qui avait une auréole grande comme ça, c'était un héros, qui s'inscrit le premier, ce qui fait que Joshua avait le numéro 2. Et en 68, tout le monde s'en va. Jean Knocker vient à Plymouth pour lui dire tout ce qu'il fallait qu'il retire, etc. Et ça a marché. Et ils partent. Il n'y avait que du beau monde, de la vraie navigation de l'époque. Et Bernard était en passe de remporter. Les Anglais avaient commencé à préparer la fête et tout. Et puis finalement...
Finalement, Moitessier aurait pu inscrire son nom à celui des marins pionniers et gagner ce premier tour du monde à la Slocum. Mais la décision qu'il prend seul à bord de Joshua, ce jour de printemps 1969, le fait entrer dans la légende.
Après avoir franchi le Cap Horn, il aurait dû faire route au nord pour rejoindre l'Angleterre et couper la ligne d'arrivée. Mais non, il choisit de continuer tout droit vers l'est et d'entamer un second tour du monde, un acte insensé, mais les terriens vont-ils comprendre ?
Je ne sais pas comment leur expliquer mon besoin de continuer vers le Pacifique. Ils ne comprendront pas. Je sais que j'ai raison. Je le sens profondément. Je sais exactement où je vais, même si je ne le sais pas. Comment pourrait-il piger ça ? Pourtant, c'est tout simple. Mais ça ne s'explique pas avec des mots. Ce serait totalement inutile d'essayer. Comment leur dire que les bruits de l'eau et les bruits du silence et les bulles d'écume sur la mer, c'est comme les bruits de la pierre et du vent ? Ça m'a aidé à chercher ma route. Comment leur dire toutes ces choses qui n'ont pas de nom ? Leur dire qu'ils me conduisent vers la vraie terre. Le leur dire sans qu'ils aient peur, sans qu'ils me croient devenu fou.
Et c'est avec stupéfaction qu'en Europe, on apprend la décision de Bernard Moitessier. Alors qu'il est en tête de la course autour du monde, il renonce aux honneurs, à la gloire, à l'argent. Il refuse de retrouver l'Occident et sa civilisation.
Mon monde à moi, ça n'est pas la société moderne. Ça n'est pas cette société de consommation. Ça, je ne marche pas. Je ne marcherai jamais pour ce truc-là.
Voilà qui a marqué des générations de marins. Ce goût de liberté, ce refus de la société de consommation, cette longue route et ces 450 pages qui nous font embarquer avec lui.
France Bleu La Rochelle, l'aventure autour du monde.
C'est toujours aujourd'hui ce qui frappe les amis du musée maritime qui prennent soin de Josua et accueillent le public pour des sorties en mer. Comme Joël.
C'est vraiment génial. Bon, là, il y a beaucoup de personnes qui passent en général quand on est au musée. À chaque fois, il y a des gens même qui viennent de loin. Et en mer, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent nous voir, qui font quelques milles avec nous. Ah, c'est Leroy, ah oui, il est encore là, comment ça se fait? Et dans tous les ports, vous avez quelqu'un qui a lu soit la longue route, il y a encore des vieilles personnes qui ont connu Moitessier qui viennent. Ah, bah, je le connais, j'étais avec Moitessier à Tahiti et tout ça. Franchement, c'est génial parce qu'on a toujours une ambiance, même les ports, en général, les capitaineries nous viennent nous voir. Ah, est-ce que je peux monter? Bah, bien sûr, c'est, profitez-en.
Pierre, chef de bord!
Ah, très fier de l'être.
Ouais, j'imagine. Non. Ça vous fait quelque chose quand vous naviguez à chaque fois sur le bateau?
Ah bah oui, forcément, parce que si je fais du bateau aujourd'hui, c'est à cause de Moitessier, entre autres. J'ai d'autres raisons aussi, mais c'est beaucoup à cause de ça. D'ailleurs, parmi les gens qu'on rencontre, j'ai souvent vu des gens au bord des larmes, voire pleurer, d'émotion. Parce que Josua, c'est, pour beaucoup de gens, c'est une émotion. L'émotion des livres qu'ils ont lus quand ils étaient plus jeunes, le rêve que ça a pu enclencher, et tout ce qui a pu être fait pour partir, le voyage. Parce que c'est pas seulement la mer, le bateau, c'est aussi le voyage, c'est la liberté, l'aventure. C'est tout un souffle qui s'est propagé dans les années 70. Et dans les années 70, ben, ça fait maintenant des gens qui ont un petit peu de bouteille, mais qui se souviennent et qui transmettent cette émotion à leurs enfants, leurs petits-enfants.
Émerveillement que de monter à bord d'un bateau si longtemps imaginé au fil des lectures. Descendons maintenant voir l'intérieur de Josua et mettons en perspective le confort apparent.
Là, au niveau de l'escalier, c'était fermé complètement. C'était, ouais. Ça faisait un sas arrière avec un atelier qu'il avait fait derrière. Hein. Là, maintenant, il y a des bannettes, on peut dormir, mais avant, c'était l'atelier fer, bois. Là, tout ce qui est tabou électrique, là, vous en aviez pas. Hein. Lui, c'était rien que du pétrole ou des bougies ou tout ça. Hein. Il n'avait pas du tout d'électricité. Hein. Si, je crois qu'il avait juste un petit moteur. En devant, c'est pareil, c'était cloisonné, donc c'était toute la partie cordage, amarre et puis
rangement,
puis voile,
sorte, quoi,
tout ça, ouais. Ouais, c'est tout. Et donc il avait donc les capots qui étaient ouverts par au-dessus. Hein, il était obligé de passer par au-dessus à chaque fois pour aller d'un endroit à un autre. Donc là, vous avez la barre extérieure qui est prise avec une drosse hein, qui renvoie derrière à une barre franche.
Oui.
Je sais pas si vous l'avez peut-être pas vu ça.
Oui, non, c'est vrai. Ouais.
C'est un système assez qui a été repris. Voilà, c'est particulier. Bah, ça permet de voir déjà toute la partie. Barre et tout ça, donc oui. S'il y a un problème, c'est facilement réparable. Hein. Contrairement à maintenant, il faut aller carrément en soute pour réparer les gouvernails. Il avait une double barre intérieure comme ça, une petite barre aussi à l'intérieur. Et là, il avait deux chaînes avec une planche et il avait fait une fameuse bulle avec sa lessiveuse découpée avec du plexi.
C'était une bassine à confiture.
Une bassine à confiture. Donc il a découpé pour faire l'ancêtre de la bulle, enfin. Et à travers cette bulle, il pouvait naviguer par gros temps, mais très spartiate, quoi, vous voyez, de chaîne, une planche, etc. Les gens en tailleur, et puis voilà. Là, sous les bannettes, vous avez deux tanks de 350 litres. Hein. Bon, bah là, il y en a qui est réservé au gasoil, maintenant pour le moteur. Et avant, c'était rien que pour la flotte, la croiseur de flotte. Hein. Et alors, sous vous, là, sous vos pieds, il y a ce qu'on appelle des gueuses. C'est ce qu'ils prenaient, ce qu'ils faisaient à peu près. Il y a 2,5 tonnes de gueuses. C'est des lingots en plomb, qui sont dans 5 compartiments. Ça forme le lest. Et si jamais il y avait un problème de quoi que ce soit, ils pouvaient retirer le lest et puis, ils seront montés. Ce que vous avez pas vu, là, bon, il y a le trou d'aération, là, vous l'avez pas vu sur le pont, mais c'est fait avec une chambre à air. Mais lui, c'était un quart de pneu hein, qu'il avait pour orienter l'air. Voilà.
Donc, mais alors, attendez, plus on discute, moi, plus je me rends compte qu'en fait, c'est un bateau de bricolage.
Ah ouais, c'est un Tom Guyver.
C'est pas du bricolage.
C'est rien que de la. Mais non, c'est des trucs pratiques, quoi, mais simples.
C'est là où le talent rejoint le génie. C'est unique. Tout ce qui a été fait parce que ça a été vécu, ça a été pensé, ça a été revécu, ça a été repensé. Et petit à petit, c'est ça qu'il faut là où c'est.
Josua continue et continuera de faire rêver. La longue route n'est pas finie.
J'avais un tel besoin de retrouver le souffle de la haute mer. Il n'y avait que Josua et moi au monde. Le reste n'existait pas, n'avait jamais existé. On ne demande pas à une mouette apprivoisée pourquoi elle éprouve le besoin de disparaître de temps en temps vers la pleine mer. Elle y va, c'est tout. Et c'est aussi simple qu'un rayon de soleil, aussi normal que le bleu du ciel.
Voilà qui donne envie de relire Moitessier, non ? Pour monter à bord de ce voilier de légende, rendez-vous avec les amis du musée maritime de La Rochelle pour une sortie en mer. Plongez-vous avant dans le livre de Thierry D'Alberto, Josua, histoire d'un voilier mythique, aux éditions Encre de Marine.